La marche du monde.
La marche du monde vous propose un portrait sonore de Germaine Tillion, une femme au panthéon de la République française.
Je n'ai fait que répondre à l'événement. Je n'ai pas cherché l'événement, c'est plutôt l'événement qui m'a cherché.
Ethnologue et résistante, Germaine Tillion a toujours été une femme d'action. Dès 1934, elle part dans le sud algérien étudier, mais aussi aider les populations des Aurès. Rentrée en France au moment de la capitulation, elle résiste immédiatement et monte un réseau. Déportée, elle soutient ses camarades et étudie le camp pour pouvoir témoigner de sa réalité. Le pas alerte et l'esprit vif, Germaine Tillion a toujours conjugué son travail et son engagement avec sincérité, intelligence et un brin de malice. Elle a voulu transmettre et partager son expérience avec les jeunes générations. Grâce à nos archives sonores, vous allez pouvoir entendre la voix et la pensée de Germaine Tillion tout au long de cette émission.
En tout cas, je pense que c'est très important de donner aux enfants, très vite, la notion du bien et du mal. Et le libre arbitre qui permet de dire non. Dire non, c'est ce que j'ai souvent dit.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Et pour évoquer la figure historique de Germaine Tillion, au moment où son nom entre au Panthéon avec trois autres résistants, Geneviève de Gaulle-Antonioz, Pierre Brossolette et Jean Zay, j'ai convié l'historien Laurent Douzou, spécialiste de l'histoire et de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Bonjour Laurent Douzou.
Bonjour.
Alors quel sens l'historien que vous êtes donne-t-il à ce choix du président de la République française, François Hollande, de rendre hommage à ces deux femmes et à ces deux hommes unis par leur passé de résistants? Qu'est-ce que ça signifie entrer au Panthéon?
C'est une très bonne question parce que la réponse est tout sauf simple. Entrer au Panthéon, c'est souvent mourir une deuxième fois et définitivement. C'est-à-dire que vous y entrez pour être oublié. Qui d'entre nous est capable de citer beaucoup de noms de gens qui sont au Panthéon?
Je peux vous citer une femme, Marie Curie. Alors il y en aura deux autres.
Mais là, votre mérite est mince parce qu'il n'y a qu'une femme. Plus exactement, il y a Marie Curie et il y a Sophie Berthelot, femme de Marcelin. Marcelin Berthelot aimait follement sa femme et ne voulait pas être séparé d'elle. Donc, ils sont entrés tous les deux.
C'est joli.
Mais Marie Curie, elle entre en ayant quand même à son actif deux prix Nobel dans deux disciplines différentes. Ça lui a permis de forcer, si vous voulez, ce verrou. Mais autrement, c'est vraiment exceptionnel que cette entrée de femmes, et en l'occurrence deux femmes qui sont vraiment des femmes d'exception. Alors pourquoi femmes d'exception? Parce qu'elles sont des résistantes déportées, et des femmes qui, au retour des camps, n'ont pas considéré qu'elles avaient fait ce qu'elles devaient et puis sont passées à autre chose, mais qui ont intégré dans leur vie, après 1945, au fond, toutes les leçons qu'elles avaient tirées de leur séjour à Ravensbrück.
Alors nous, aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à l'itinéraire de Germaine Tillion. Moi, ce qui m'a vraiment frappé en me plongeant dans l'histoire de cette femme, en écoutant ces archives précieuses que nous avons ici à RFI, c'est l'imbrication absolue des deux dimensions du personnage, à savoir la résistante et l'ethnologue. Autrement dit, Laurent Douzou, est-ce qu'on peut comprendre la résistance de Germaine Tillion sans passer par son itinéraire d'ethnologue ?
À mon avis, c'est très difficile. Tous les ethnologues n'ont pas été résistants, donc il suffisait pas. C'est pas une condition suffisante. Mais Germaine Tillion, il me semble qu'elle a été ethnologue toute sa vie. C'est-à-dire qu'elle l'est dans l'Aurès avant la guerre. Elle l'est aussi quand elle résiste, parce qu'elle étudie beaucoup les liens qui se tissent dans le réseau dont elle est partie prenante. Elle l'est au camp de Ravensbrück, parce que elle étudie le camp, son fonctionnement, son économie générale. Elle fait une conférence à ses co-détenus pour leur expliquer ce qu'elle a compris. Et puis, elle écrit une opérette au camp, dans le camp de Ravensbrück, le Verbe Fugbar aux Enfers, qui est vraiment une pièce extraordinaire, parce qu'elle y démonte toute la logique du camp, ce que c'est que l'univers concentrationnaire, mais elle le fait avec une espèce d'ironie, de distance, qui fait que là, on retrouve l'ethnologue, c'est-à-dire quelqu'un qui peut être jusqu'au cou dans la réalité qu'il décrit, mais qui en même temps institue sans cesse une distance.
Laurent Douzou, je vous propose, pour commencer, de partir en Algérie dans les Aurès avec Germaine Tillon. Elle vient d'obtenir son diplôme de l'Institut d'ethnologie qui existe depuis très peu de temps. Il a été créé en 1925. Germaine Tillon a été l'élève de Marcel Mauss, c'est son directeur de thèse. Elle est donc fraîchement diplômée et elle choisit l'Algérie pour son premier voyage d'études. L'Algérie est alors un département français où vivent différentes tribus berbères que cherche à rencontrer Germaine Tillon.
Écoutez, quand je suis allée en Algérie, c'était en 34, j'y ai été vraiment par curiosité. Eh bien, j'étais tout de même à 14 heures de cheval d'une prise de courant, par exemple. Il est certain que j'avais évidemment aucun moyen d'éclairage, que j'ai habité pendant un certain temps sous une tente, mais c'était une tente qui était sur une pente extrêmement rude, et sur laquelle, quand il pleuvait, ce qui n'arrivait pas souvent, mais quand ça arrivait, c'était très violent. Et moi, je me disais, bon, oui, mais là, je suis à côté d'une belle source, une source si belle. Elle était plus grosse que mon bras, et elle jaillissait du rocher. Et il n'y a rien au monde de plus beau, de plus envoûtant, de plus enchanteur qu'une source qui sort d'un rocher. Dans un pays saharien, c'est une merveille du monde. Il y avait donc à ce moment-là deux populations. Une population qui était, disons, musulmane. C'était au fond à ce moment-là le caractère le plus marquant, parce que les gens ne se disaient pas algériens. Ceux qui se disaient algériens étaient d'origine européenne. Et ceux qui n'étaient pas d'origine européenne se disaient musulmans. Et bizarrement, les gens qui étaient d'origine européenne les appelaient les Arabes. Alors que la plupart n'étaient pas du tout arabes, et même quelques-uns ne savaient pas un mot d'arabe. Et ce qu'on appelait les tribus, j'ai plutôt envie d'appeler ça une petite république, car c'était déjà très démocratique. Bon, c'était donc une démocratie comme ont été les premières démocraties grecques, c'est-à-dire des clans qui sont d'unité familiale, obéissant aux représentants de l'ancêtre, et d'autant plus fort qu'ils ont beaucoup d'hommes armés pour les représenter.
La petite république des Chaouias, dans les Aurès, région montagneuse à l'est de l'Algérie, où vivent des tribus berbères semi-nomades. C'est là que Germaine Tillon s'installe, dans le douar de Tadjemout, et elle écrit que c'est le plus petit, le plus pauvre et le moins accessible de l'Aurès, donc le plus éloigné des représentants de l'ordre. Elle suit les Chaouias jusqu'en 1940. Elle apprend à connaître les habitants et leur territoire. Elle étudie les relations entre les sexes, les lignées, la vie économique et les aspects matériels, le statut de la femme chaouia et la transmission du patrimoine. On retrouve d'ailleurs son travail et ses réflexions dans un livre, Il était une fois l'ethnographie, publié en 2000. Une publication tardive, car les 700 pages de la thèse d'ethnologie de Germaine Tillon ont disparu dans les camps nazis, car lorsque Germaine Tillon rentre d'Algérie en France, nous sommes en 1940, la France a capitulé devant les Allemands et le général Pétain a signé l'armistice.
Les circonstances aujourd'hui exigent l'obéissance et l'union de tous les Français. Ensemble, nous sauverons la France.
Quand j'ai entendu le discours de Pétain, je suis sorti pour vomir. Pour moi, nous ne pouvions pas arrêter la guerre du fait que nos alliés anglais étaient encore en guerre. C'était une décision qui me paraissait aller de soi. J'ai pensé au contraire que tous les gens qui m'entouraient avaient fait le même choix. Et il me semble aussi que cette opinion n'était pas tellement fausse. En ce sens que lorsque j'ai eu des services à demander pour la résistance à n'importe qui, le n'importe qui en question me l'a rendu immédiatement. J'ai pris ce choix toute seule. Moi, j'ai été gaulliste immédiatement. J'avais énormément de gens autour de moi qui pensaient comme moi. Je n'ai pas su tout de suite qui était le général de Gaulle. Je l'ai su surtout très très bien lorsque je me suis trouvée à Ravensbrück avec Geneviève, avec sa nièce. À ce moment-là, j'ai eu des détails personnels sur la famille de Gaulle, sur les convictions et en quelque sorte le pédigré du général. Et je me suis dit, oui, cet homme-là, il est parfaitement digne de ramasser la France dans le fossé où elle est.
Dès 1940, Germaine Tillion entre en résistance en s'engageant dans une filière d'évasion destinée aux prisonniers de guerre dirigée par le colonel Paul Hoé. Son activité s'élargit ensuite à la collecte d'informations sur l'armée allemande, sur les mouvements des troupes et sur les camps de prisonniers. Germaine Tillion va mettre ensuite en contact Paul Hoé avec Boris Vildé du Musée de l'Homme avec lequel elle travaille. C'est ainsi que s'organise le réseau du Musée de l'Homme, réseau précurseur dans la résistance.
La première résistance, ça a été des femmes et des vieillards. Étant donné que Paris était une ville sans hommes, il n'y avait pas d'hommes dans Paris, que des vieillards, même les gosses, on les avait envoyés en zone libre. Quand par hasard vous voyez un homme qui n'était pas un vieillard ou un infirme, c'était un évadé. Et cet évadé était obligé de se cacher et d'être caché par conséquent par les femmes. La première chose que nous avons eu à faire a été précisément de nous occuper des évadés et de cacher les clandestins. Ce sont les deux choses essentielles. Camoufler des gens, organiser des passages en zone libre, organiser des courriers clandestins, faire passer des gamins en Angleterre, correspondre avec Londres. Nous pouvons reprendre la formule du canard enchaîné. Nous étions pour tout ce qui est contre, contre tout ce qui est pour.
Germaine Tillion, résistante de la première heure. Laurent Douzou, Germaine Tillion, il y a une connaissance de ce qui se passait en Allemagne. Elle a une réflexion, je dirais, a posteriori, lorsqu'elle s'exprime dans cette archive, qui a été réalisée des années après. Ou est-ce que vous avez le sentiment, Laurent Douzou, qu'elle a vraiment compris quelque chose?
Je crois qu'elle l'a compris immédiatement. Elle le disait en traduisant sa réaction quand elle entend la demande d'armistice de Pétain, elle dit « j'ai vomi ». Donc c'est viscéral. Alors c'est raisonné aussi, mais c'est les deux. Et c'est très frappant chez elle, et c'est pour ça que je suis très très content qu'on entende sa voix comme vous la faites entendre, parce que je crois que pour les auditeurs comme pour moi, ce qui est frappant, c'est une voix très singulière. Vous avez remarqué comme le propos est ferme, mais comme le phrasé est doux. Et ça, c'est très très étonnant, et ça dit beaucoup de ce qu'elle était, à mon avis. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne plie jamais, mais qui n'éprouve pas le besoin de hausser le ton, de lever la voix. Et tout ça est dit de façon aimable, pateline, sympathique, alors que ce qu'elle dit sont des choses extrêmement fortes. Et puis ce que j'aime beaucoup dans cette voix, c'est que c'est tout un phrasé d'une femme née en 1907. C'est-à-dire que quand on est à une époque donnée, on ne parle pas comme quand on est 100 ans plus tard. Et elle parle comme les gens du début du XXe siècle, avec cette espèce de précision, de recherche, qui, à mon avis, la définit très bien. De sorte que, pour revenir à votre question initiale, je crois qu'il y a les deux chez elle, les deux aspects. C'est-à-dire, à la fois, c'est quelqu'un de très viscéral, s'il y a des choses qu'elle ne peut pas supporter, et en même temps, c'est une femme éminemment réfléchie. Et donc, son rejet du nazisme, il est étayé sur des considérations, j'allais dire, doctrinales très fortes. Mais il est aussi, elle le dit à sa manière, le rejet d'une patriote qui ne peut pas accepter que son pays soit occupé.
Une patriote, Laurent Douzou, qui va monter un réseau, qui va s'engager tout de suite, elle le dit, et qui voit chez l'homme le bon côté, le côté lumineux. Elle dit finalement, on était nombreux à penser comme moi. C'est ça qu'elle veut retenir.
C'est ce qu'elle a toujours dit, que finalement la résistance en zone occupée, parce que c'était sûrement très différent en zone sud où Pétain avait en 40-41 une très forte aura.
Mais elle est à Paris.
Mais elle est à Paris. Donc à Paris, elle a toujours dit qu'elle avait l'impression qu'elle avait été soutenue, pas elle seulement, mais au fond les membres du réseau, et que tout le monde n'était pas résistant, loin de là. Mais que beaucoup de gens qui n'étaient pas résistants voyaient d'un œil favorable les résistants comme elle.
Résistante de la première heure, gaulliste de la première heure, Germaine Tillion, comme nombre de ses camarades, va être arrêtée et d'abord, avant d'être déportée à Ravensbrück, transférée à la prison de la Santé.
Je dois dire que tout de suite, quand je me suis trouvée à la Santé, j'ai communiqué avec la cellule qui était au-dessous de la mienne par la fenêtre, car tous les carreaux de ma fenêtre étaient cassés. Et j'ai donc très vite pu parler avec la prisonnière qui était à l'étage au-dessous, immédiatement au-dessous. Pendant au moins 15 jours, je n'ai pas pu avaler mon pain. Je lui envoyais donc le morceau de pain que nous avions chaque jour, avec une ficelle faite avec un bout de drap. Et elle, par le même moyen, elle m'a envoyé un petit crayon, à peu près grand et gros comme mon pouce, qu'elle avait trouvé dans le matelas de sa cellule. Et moi, avec ce petit bout de crayon, j'ai pris quelques notes sur la date de mes interrogatoires, que j'ai notées sur les bouts de papier qu'on nous donnait comme papier toilette. Je savais qu'il y avait des camps de concentration en Allemagne. J'avais déjà lu un livre sur les camps de concentration allemands en 1938. Un livre traduit en français, par conséquent. Et je savais parfaitement qu'il y avait des camps de concentration en Allemagne. Je savais que ces camps étaient extrêmement brutaux, mais je ne connaissais évidemment pas l'extermination méthodique d'Auschwitz. À ce moment-là, nous ne savions rien. Je ne savais même pas où nous allions. Par la suite, la plupart, je les ai retrouvés à Ravensbrück.
La voix de Germaine Tillion dans La Marche du Monde. Laurent Douzeau, je vous sens extrêmement ému depuis le début de cette émission. J'allais vous poser cette question. Qui a donné Germaine Tillion et quelle analyse faites-vous de son témoignage sur la façon dont elle se comporte dès son transfert à la prison de la Santé?
C'est tout à fait typique d'elle. Ça, qui a donné Germaine Tillion? Vous avez raison d'employer le terme. Elle a été dénoncée par un prêtre qui était membre du réseau du Musée de l'Homme, qui s'appelait Robert Alèche. Et c'est pour ça qu'elle a été arrêtée le 13 août 1942. Alors si je donne cette précision de date, c'est parce que ça indique bien qu'elle est membre de la résistance pionnière. Elle est arrêtée très tôt. Et puis après, il y a l'incarcération. Et au fond, ce qu'elle vient de dire montre une chose fondamentale, c'est que la résistance ne s'arrête pas aux portes des prisons et des camps. Et que même d'une certaine manière, la résistance la plus effective, c'est celle qu'on fait en prison et en camp. Et elle était très bien armée pour ça, parce que vous avez vu tout de suite, au fond, elle peut rien digérer, elle peut pas prendre de pain, mais elle va avoir un crayon. Et elle va se mettre à noter. Et elle fera ça en prison à la Santé. Et vous savez qu'elle va quand même être incarcérée 14 mois. Et puis le 31 octobre 43, elle arrive à Ravensbrück. Et à Ravensbrück, elle va continuer ce travail de scribe de façon tout à fait étonnante. Et il y a un passage de ses écrits que je trouve extraordinaire, où elle raconte qu'à Ravensbrück, donc elle a fait une véritable enquête, et elle est allée voir les gitanes du camp. Et alors elle écrit ceci, en parlant donc des gitanes du camp de Ravensbrück: « J'allais souvent dans leur bloc, et j'avais même commencé un petit vocabulaire comparé des divers dialectes gitans, qui me permettait d'amorcer la conversation et de me renseigner ensuite sans exciter de curiosité par mes questions. » C'est-à-dire que toutes les précautions méthodologiques qu'on recommande aux ethnologues, elle les emploie à Ravensbrück même. Et ça, c'est typique.
Germaine Tillion, chantée par Nathalie Richard, à découvrir dans le coffret CD Chronique de Résistance. Retrouvez Germaine Tillion juste après les infos sur RFI.
Germaine, tu nous as appris que celui de la mort est moins fort que le nôtre.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Suite de la marche du monde consacrée à Germaine Tillion, ethnologue et résistante. Germaine Tillion, née le 30 mai 1907 à Allègre, en Haute-Loire. Germaine est une enfant de l'amour, fille d'un juge de paix, élevée dans la littérature, la photographie et la musique. Ses parents rédigent ensemble des guides de voyage, tandis que leur petite fille montre dès son plus jeune âge une inlassable curiosité.
Toutes les fois qu'il y a une action possible, je n'ai jamais eu peur. Je n'ai eu peur que les trois fois où j'ai eu véritablement les cheveux qui se sont dressés sur la tête. Il y a eu, je crois, une fois où j'étais à cheval, une autre fois, c'était à Ravensbrück, la troisième fois où j'ai eu réellement peur, c'était au cinéma, à Arsenic et Vieille Dentelle. Quand j'ai vu que le méchant était caché derrière une porte, j'ai senti mes cheveux qui se dressaient sur ma tête, exactement comme à Ravensbrück.
Du courage, de la détermination, un goût immense pour les autres et beaucoup d'humour. C'est en tout cas le souvenir personnel que je garde de Germaine Tillion et je me demandais quel était le vôtre, Laurent Douzeau, vous qui êtes historien et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale.
Je ne l'ai malheureusement rencontrée qu'une seule fois. Mais quand même, c'était très frappant. C'est une toute petite femme qui avait une force de caractère qui était patente, qui vraiment s'imposait, mais alors s'imposait sans aucun argument d'autorité, sans rien faire de ce qui aurait pu montrer qu'elle vous était supérieure, rien de ce type. Et je crois que ce qui la définissait le mieux, c'est ce qu'elle disait elle-même de l'ethnologie. Quand elle essayait de définir l'ethnologie, elle disait cette, je la cite, « affaire de patience, d'écoute, de courtoisie et de temps ». Alors c'est une définition très très large de l'ethnologie, en tout cas c'est une bonne définition de Germaine Tillion à mon avis, c'est-à-dire cette capacité d'écoute qui ne veut pas dire que vous êtes en accord avec tout ce qui se dit, mais que vous êtes capable de le prendre en compte et ensuite de réagir avec courtoisie, comme elle le dit, mais si nécessaire avec fermeté.
Et un peu plus loin, dans ce texte-là, Laurent Douzeau, elle ajoute « c'est apprendre à vivre ensemble » et je trouve que c'est sacrément d'actualité.
Oui, c'est une femme que la vie, sous toutes ses formes, passionnait. Quand elle était dans l'Aurès, elle était passionnée par l'observation qu'elle faisait de la vie des clans, des familles. Dans la Résistance, elle s'est beaucoup intéressée à la façon dont les réseaux se montaient. À Ravensbrück même, elle a été curieuse et en même temps très solidaire de ses camarades. Et elle a écrit quelque chose que je trouve admirable pour la définir. Elle disait « Ce qui me passionnait, c'était de regarder en essayant de comprendre... Il y a un ordre caché dans tout ce qui vit. » Je crois que ça, c'est, comment dire, une très très bonne manière de comprendre l'approche qu'elle avait de la vie en général.
Alors après ses premières recherches en ethnologie dans les Aurès en Algérie, vous venez de le rappeler, et son entrée en résistance dès 1940, je vous propose d'écouter Germaine Tillion évoquer son propre comportement dans le camp de concentration de Ravensbrück. Elle est accusée de 5 chefs d'inculpation, punie de mort. Germaine Tillion n'est pas jugée, elle est déportée, ce qui signifie pour les nazis condamnée à disparaître sans laisser de traces. Elle arrive au camp des femmes de Ravensbrück, à 80 km au nord de Berlin, le 31 octobre 1943.
Je n'ai pas du tout pensé que je poursuivais mon métier d'ethnologue à Ravensbrück. Mais la première chose que j'ai faite en arrivant à Ravensbrück, c'est essayer de m'informer sur le camp. Et j'ai pu entrer en contact avec tout le groupe des camarades qui ne parlaient pas français. Une solidarité immédiate et totale. Et je me suis arrangée pour faire poser des questions ciblées aux camarades en question, portant sur, par exemple, combien on dépensait pour notre nourriture, qu'est-ce que l'argent qui était payé pour le travail des prisonnières pouvait venir ensuite, combien il y avait de gardiens dans le camp, combien il y avait de gardiennes, quel était le statut des gardiens et des gardiennes. Exactement toutes ces questions-là, je me suis arrangée pour les faire poser à différentes secrétaires du camp. Car dans le camp, tout était fait par les prisonnières, sous le contrôle des SS. Mais ces prisonnières étaient tantôt des Tchèques, tantôt des Autrichiennes, et en général des politiques. Par conséquent, je me suis arrangée pour faire demander individuellement à diverses prisonnières un ensemble de renseignements qui m'ont permis de reconstituer ce qu'était le statut d'un camp de concentration. Eh bien, j'ai décrypté en quelque sorte l'extermination par le travail. Et comme terrassière, j'ai décrypté combien de temps nous devions survivre. J'ai écrit à Ravensbrück une opérette qui s'appelle Le Verfügbar aux Enfers, une série de blagues que j'avais écrit pour amuser nos camarades, car nous étions même capables de rire. En fait, à l'époque où j'ai écrit cette comédie, c'était en pleine période d'énergie vitale, où de toute mon énergie, j'essayais non seulement de lutter moi-même, mais d'aider mes camarades à lutter. Comprendre ce qui vous écrase, c'est en tout cas se poser comme existant en face d'une fatalité. Je dois dire que normalement, j'aurais dû mourir.
La survie de Germaine Tillion et la méthode de Germaine Tillion, jeune ethnologue. Vous avez dit, Laurent Douzou, elle est pionnière en résistance. Elle est également pionnière en ethnologie. L'école d'ethnologie de Paris a été créée en 25. Elle est diplômée, elle, en 34. C'est la toute première ethnologue française, quasiment.
Ah oui, absolument. Et vous avez vu, c'est intéressant parce qu'elle dit dans son témoignage « Je ne me suis pas comporté en ethnologue ». Et en même temps, tout ce qu'elle décrit, c'est une véritable enquête ethnologique qu'elle mène. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne l'a pas menée toute seule, elle le dit bien. Elle le mène avec l'aide d'autres politiques de nationalités différentes qui, au fond, comprennent assez bien que c'est crucial de parvenir à avoir une intelligibilité de cet univers concentrationnaire. Et donc, elle a les outils pour le faire et les autres l'aident à le faire. Parce que pour faire ce qu'elle fait, il faut aussi ne pas travailler, il faut s'abstraire de la difficulté du camp. Et elle écrivait ceci, « Je suis arrivé à ne jamais travailler ou presque, ce qui exigeait un répertoire de ruses, de refuges, de complicité suffisant pour administrer une province asiatique, mais ce qui me laissait de nombreux loisirs. » Donc vous voyez, chez elle, il y a une stratégie qui se déploie, mais c'est une stratégie qui n'est jamais individualiste. C'est une femme qui n'agit qu'avec les autres, tout le temps.
Est-ce que l'enquête ethnologique qu'elle arrive à produire à Ravensbrück, est-ce qu'il existe un équivalent de cela dans l'histoire de la déportation des résistants, Laurent Douzou?
À ma connaissance, non. C'est-à-dire que c'est une enquête qui est produite in vivo et qui va donner dès 1945-46 le premier manuscrit de Ravensbrück. Là encore, quand vous regardez ce premier manuscrit, elle n'est pas la seule auteure. C'est une équipe qu'elle a constituée autour d'elle qui écrit cette première mouture du Ravensbrück, qu'ensuite elle réécrira constamment. Parce que Germaine Tillion, c'est une pensée en action. Donc elle n'est jamais satisfaite du résultat auquel elle aboutit.
Elle vérifie et revérifie tout le temps.
Elle vérifie, donc il y a 3 éditions successives du Ravensbrück et c'est pas des petits détails qui sont modifiés. C'est quelqu'un qui est capable de repenser son affaire.
Alors, vous nous l'avez expliqué précédemment, Laurent Douzou, Germaine Tillion a été dénoncée par un prêtre. Et Germaine Tillion suppose que c'est ce même prêtre qui aurait dénoncé sa mère. Elle voit ainsi Émilie arriver en février 1944 dans le camp de Ravensbrück en Allemagne.
Du fait que j'étais très connue dans le camp, le bruit a circulé de bouche en bouche. Nous étions toutes à l'appel, c'était la nuit noire, et nous étions toutes immobiles à l'appel. Mais chaque voisine disait à sa voisine, la maman de Coury est arrivée. C'est comme ça que je l'ai su. Ça a été pour moi déchirant. Ça a été déchirant parce que tant qu'elle était loin, elle risquait au fond rien. Nous avions une grande maison et oui, ça, c'était pas supportable. Je dois dire que j'ai eu une période de très grand noir. Les années qui ont suivi ma libération sont des années très très sombres pour moi. Il me semble que j'ai un souvenir de cirage. Tenez, je vais vous raconter une anecdote. J'avais une de mes camarades qui était dans le commando de peinture. Et le commando de peinture se trouvait à côté du Revier, un jour où on est venu chercher les femmes pour les emmener directement à la chambre à gaz, qui se trouvait de l'autre côté du mur. C'était donc en janvier ou février 45. Et les SS sont arrivés et ils ont été prendre les malades dans les lits en chemise. Et il y avait une des malades qui était une Française, toute petite, une petite dame, qui est sortie en criant son nom. Je m'appelle Madame. Je crois que c'était un nom comme Madame Guérin. Je m'appelle Madame Guérin, je m'appelle Madame Guérin. Et je dois dire que lorsque je me suis retrouvée d'abord en Suède et ensuite en France, je me suis souvenue de toutes ces petites dames qui sont parties à la mort en criant leur nom, pour que quelqu'un au moins sache qu'il y avait une petite dame qui avait existé ce jour-là et qui était morte ce jour-là. Alors ça a été pour moi un devoir absolu d'essayer de retrouver tous ces noms, toutes ces dates, que tout ceci ne soit pas englouti dans le silence et dans l'oubli. J'ai voulu simplement dire exactement ce qui était, et ensuite chercher la preuve que tout ce que j'avais dit était exact. C'est ça que j'ai fait.
L'image d'une femme associée au son de son cri, une petite dame qui crie son nom pour ne pas mourir comme un numéro mais comme un être humain, un souvenir dont Germaine Tillion se sert pour documenter sa connaissance du système nazi. L'ethnologue a beaucoup réfléchi et elle a décidé de comparer les deux systèmes totalitaires du XXe siècle, le nazisme et le communisme, mais sans passion.
Effectivement, je n'ai jamais été quelqu'un de passionné au point de vue politique. Je me suis quelquefois reproché d'ailleurs. Je n'ai été passionnée que par la résistance. Mais n'oubliez pas que j'ai aussi fait partie, avec David Rousset, des gens qui ont enquêté sur les crimes de Staline. Ça veut dire que j'ai donc été très tôt, à la fois très sévère pour le stalinisme, mais en même temps, pendant que j'étais dans les camps, très camarade avec mes camarades communistes. J'ai donc toute ma vie considérait comme très différent le communisme et les communistes. Autrement dit, j'ai considéré très sévèrement le communisme et très amicalement les communistes. Parce que tout de même, le communisme s'appuie sur des théories qui sont quand même une survie de l'espèce humaine, tandis que le nazisme s'appuie sur une théorie de la survie d'une variété de l'espèce humaine et de l'extermination des autres.
Grâce aux archives sonores de RFI, nous pouvons écouter et partager la voix et la pensée de Germaine Tillion dans La Marche du Monde. Germaine Tillion qui n'hésite pas à comparer ce qui a longtemps été considéré comme incomparable. Comment l'historien que vous êtes comprend-il cette analyse, Laurent Douzou ?
Je suis frappé par la nuance dont elle est capable. C'est-à-dire qu'elle ne met pas sur le même plan communisme et nazisme. Je crois pour des raisons qu'elle explique très bien et qui, moi, me paraissent convaincantes. Et puis surtout, elle fait la distinction entre l'idéologie, le corps doctrinal et les gens. Et c'est vrai que tous les résistants déportés, qui ont donc expérimenté des vies terribles, sont revenus des camps en général avec une grande admiration pour le comportement des communistes. Pas pour le communisme, pour le comportement des communistes. Et vous voyez, chez elle, il y a ça. Donc, c'est pas une femme inoxydable. C'est pas quelqu'un qui traverse ses épreuves sans qu'elle laisse de traces. C'est quelqu'un qui est très profondément affecté, mais qui, en même temps, continue sa route, poursuit son chemin.
Et Germaine Tillion a énormément observé, elle a lu, elle a travaillé à la compréhension de la résistance et de ce projet nazi. Elle assiste au procès du maréchal Pétain l'été 45 et elle fait aussi l'immense effort d'aller assister au procès des chefs SS de Ravensbrück en 1950. Comment fait-elle et quand fait-elle ?
Alors des procès de Ravensbrück, enfin des responsables de Ravensbrück, elle en fait pas grand chose parce que ça la déçoit beaucoup, dans la mesure où elle a l'impression que ça ne rime pas à grand chose de juger des personnes, que ce qui est beaucoup plus important, c'est de juger le système qui permet à ces personnes d'agir de cette manière. Donc c'est quelqu'un qui, de façon très surprenante, a une très grande indulgence, y compris pour ceux qui ont été des bourreaux. Donc elle ne crie pas vengeance en quelque sorte. Ce qu'elle fera en revanche, c'est essayer de faire en sorte que ce qu'elle a vécu à Ravensbrück, ça ne puisse pas se vivre ailleurs et plus tard. Et c'est pour ça qu'avec David Roussel, elle va faire cette enquête sur les camps soviétiques, ce qui à l'époque est une question explosive. On est en pleine guerre froide et donc faire ça, c'est vraiment risquer quantité de coups. Elle en a reçu beaucoup. Mais elle veut le faire parce qu'elle pense qu'il y a beaucoup de cohérence à le faire. Tout en refusant, on l'a dit tout à l'heure, de mettre sur un même plan nazisme et communisme.
Alors on l'a dit aussi, Germaine Tillion est obsédée par ses recherches sur la résistance et la déportation. Elle dit adieu à l'Algérie, mais finalement, une fois de plus, elle doit répondre aux événements. Et en 54, elle se voit confier une enquête officielle sur le sort des populations civiles dans les Aurès. Les Aurès, où elle a commencé sa carrière d'ethnologie. Et dans son livre, L'Afrique bascule vers l'avenir, Germaine Tillion explique « Je considérais les obligations de ma profession d'ethnologue comme comparables à celles des avocats, avec la différence qu'elle me contraignait à défendre une population au lieu d'une personne. Il ne m'est donc pas venu à l'esprit que je pouvais refuser la proposition qui m'était faite et pétrie de civisme, je refis ma valise. »
Disons que dans cette période-là, j'ai commencé surtout à m'intéresser à la condition des femmes après 54, lorsque je me suis aperçue qu'il y avait un appauvrissement dramatique de la population. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai essayé de voir d'où venait cet appauvrissement. Et c'est très complexe parce que, au fond, plus une femme est ignorante et incapable de gagner sa vie, et plus elle se dit qu'elle ne peut survivre que si elle a beaucoup d'enfants. Parce qu'il y aura toujours un des enfants qui viendra à son secours.
Et c'est lors de ce retour en Algérie en 1954 que Germaine Tillion invente son concept de clochardisation. Elle observe le passage de la condition paysanne à la condition citadine, un phénomène qui s'est d'ailleurs incroyablement développé depuis. Mais là encore, Germaine Tillion réagit et elle agit en montant un programme socio-éducatif. Elle a d'ailleurs écrit que c'est son œuvre majeure, Laurent Douzou. Est-ce que c'est encore de la résistance ?
Je ne sais pas si on peut appeler ça de la résistance. Moi, ce qui me frappe, c'est, vous avez fait entendre au tout début de cette émission une phrase d'elle où elle disait « Je n'ai fait que répondre à l'événement ». Et c'est faux, bien entendu. Parce qu'on est nombreux à ne pas répondre à l'événement. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui vous sollicitent et vous détournez le regard parce que c'est risqué, parce que vous n'avez pas envie de le faire, enfin, pour toutes sortes de raisons. Et elle ne détourne jamais le regard. Alors, est-ce que ça, c'est la résistance qu'on pourrait décliner peut-être ? En tout cas, c'est quelqu'un qui, quand elle se trouve confrontée à une situation qui ne lui paraît pas tolérable, ne s'en détourne jamais. Et donc, elle accepte en 54-55 une mission qui est de mettre sur pied les centres sociaux, qui est quand même une mission extrêmement périlleuse. La guerre d'indépendance est commencée, l'escalade est manifeste, mais elle accepte parce qu'à mon avis, elle doit penser qu'elle n'a pas le choix en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle doit le faire. Donc, elle se lance dans cette aventure qui est un véritable défi. Elle nous décrit une société dans laquelle les hommes sont dominants et les femmes dominées. Mais elle, quand elle parle des relations aux enfants, elle dit finalement les hommes sont privés des enfants, ce qui est pas juste. C'est-à-dire que elle renverse complètement la perspective et nous dit ces dominants, il leur manque quelque chose d'essentiel. Et vous voyez, Germaine Tillion, c'est toujours comme ça qu'elle réagit, c'est-à-dire avec beaucoup de subtilité. Elle ne se contente pas de ce qu'on peut observer au premier regard. Elle essaie de comprendre les implications. Et là, dans le rapport homme-femme, elle joue un rôle clé. Et c'est pour ça que son entrée au Panthéon, d'une certaine manière, c'est une très bonne nouvelle. Parce que vous savez que Germaine Tillion disait que la condition faite aux femmes, c'est le meilleur critère qui soit du développement d'une société. C'est pas l'indice de développement humain ou le produit intérieur brut par habitant, c'est la condition faite aux femmes. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est quand même intéressant symboliquement qu'on l'honore en la faisant entrer au Panthéon.
L'année 57 est une année décisive en Algérie puisque c'est la bataille d'Alger, le moment où la France vote les pleins pouvoirs à l'armée. C'est aussi l'année où Germaine Tillion accompagne les enquêteurs missionnés par la CICRC, la Commission internationale contre le régime concentrationnaire, dans les prisons et les camps en Algérie.
Et moi qui connaissais tous les intellectuels, toute la jeunesse intellectuelle algérienne, je retrouve partout des jeunes gens et des vieux instituteurs qui étaient des gens que je connaissais comme des amis. Et ses amis me parlent comme on parle à ses amis, c'est-à-dire franchement. Et moi, je ne pouvais pas douter une seconde de ce qu'il me disait. Il y avait des atrocités aussi des deux côtés, il faut le dire. Personnellement, j'ai fait tout ce que j'ai pu contre la torture, mais j'ai encore plus lutté contre les exécutions capitales. Et au fond, la seule chose que j'ai désirée passionnément pendant toute la guerre d'Algérie, c'était d'abord arrêter la guerre, et deuxièmement, un vote algérien libre et authentique. Et puis c'est tout.
Laurent Douzou, il faut évoquer le rôle de Germaine Tillion dans sa tentative de dialogue entre le FLN, le Front de Libération Nationale en Algérie, et le général de Gaulle. Alors qu'est-ce qui la motive? Est-ce que c'est la lutte contre la torture, sauver des individus, ou bien se place-t-elle à un niveau plus politique?
Je pense pas qu'elle se place à un niveau politique réellement. Ce qui lui est insupportable, c'est la torture. Ce qui lui est insupportable, c'est qu'on mette des gens à mort. Ça, elle peut pas l'accepter. Ce qui fait qu'elle va faire quelque chose de totalement stupéfiant, quand on y réfléchit un peu. En juillet 1957, donc en pleine bataille d'Alger, elle est approchée, alors qu'elle est à Alger, par des gens qui lui disent... Il y a des gens qui aimeraient vous rencontrer. Elle accepte, et en prenant toutes sortes de précautions, elle va dans un appartement de la Casbah d'Alger, et elle va à deux reprises rencontrer pendant plusieurs heures le chef de la zone autonome FLN d'Alger, qui s'appelle Yassef Saadi, et son adjoint qui le protège, qu'on appelle Ali Lapointe. Et elle a relaté dans les ennemis complémentaires les rencontres avec ces hommes. Alors ça, c'est stupéfiant, parce que ils ont pour elle une immense admiration. Elle dit même qu'ils sont intimidés par elle. Elle est là avec ces hommes qui ont des mitraillettes sur les genoux, qui sont dans une ville où ils sont traqués, etc. Et elle discute avec eux. Et ils lui demandent de parler de la résistance. Et donc elle en parle. Et puis Yassef Saadi lui dit « Mais voyez, nous on est comme vous, on n'est ni des criminels ni des assassins. » Et elle lui répond, je la cite, « Vous êtes des assassins. » Vous avez versé le sang innocent crie vengeance. Si je suis ici en ce moment, c'est pour l'amour du sang innocent, français ou algérien, je n'ai jamais fait la différence. Donc ça, il faut quand même oser le dire. Elle le lui dit, et ça le touche suffisamment pour qu'il accepte une trêve. Et il va y avoir une trêve de 2-3 mois. Et puis, cette trêve va s'arrêter. Mais voyez, là, vous avez typiquement une action qui porte la marque de Germaine Tillion. Et alors, elle fait ça d'un côté, et de l'autre, elle fait autre chose d'incroyable, c'est que elle a beaucoup d'amis d'anciens du Musée de l'Homme qui sont dans les cercles du pouvoir, qui s'appellent Louis Mangin, André Bouloche, Maurice Bourgès-Monory.
Du pouvoir français.
Du pouvoir français de l'époque. Et elle fait tout pour que y ait une désescalade. Alors, en réalité, c'est une position qui est intenable. Sur le moment où elle fait ça, on est en pleine bataille d'Alger, on risque sûrement pas d'avoir une désescalade. Mais c'est intéressant parce que, vous voyez, elle s'est pas avouée battue et elle a tenté quand même cette opération quasiment impossible.
Et des deux côtés. Laurent Douzou, je vous propose d'entendre une dernière fois dans cette émission La Voix de Germaine Tillion. Je vous demanderai ensuite de nous livrer la réflexion qu'elle vous inspire.
Nous avons connu dans les camps, l'extrême misère, la misère totale et également la solidarité des misérables entre eux, la fraternité de la misère. Je dirais que dans un certain sens, nous étions meilleurs quand nous étions dans les camps que nous ne sommes maintenant. Quand j'étais dans les camps, je pouvais donner la moitié de mon pain à quelqu'un. Et c'était pourtant la survie. Et à l'heure actuelle, je ne peux pas donner la moitié de ce que j'ai. En fait, il y a une générosité dans l'extrême misère que les peuples comblés ne peuvent même pas soupçonner et comprendre.
Ça, c'est une réflexion extrêmement profonde de sa part, parce que ce dont elle parle, c'est l'insondable misère du camp de Ravensbrück. C'est-à-dire, les gens sont vraiment ravalés à un rang qui est un rang épouvantable. Et ce qu'elle dit, et qui est très vrai, je crois que la littérature aussi en donne beaucoup d'exemples, c'est que quand le dénuement est extrême, quand il n'y a plus de richesses à partager, etc., c'est vrai que la fraternité, la solidarité, tout ça apparaît comme... des valeurs cardinales, comme au fond tout ce qui reste. Et ça crée une fraternité très forte, qui dans le cas de Germaine Tillion est très intéressante, parce qu'après-guerre, elles se sont retrouvées souvent avec les anciennes de Ravensbrück, et elles formaient un groupe incroyablement soudé. Et ce groupe était soudé autour d'elle. C'est-à-dire qu'elle était la pièce centrale, et je peux vous assurer que les femmes qui étaient autour d'elle n'étaient pas des comparses, c'était pas des femmes qui n'avaient aucune personnalité. Mais au fond, là, d'une certaine manière, elle s'inclinait et elle se souvenait du rôle de Coury au camp. Et donc, je crois que quand elle dit ça, c'est vraiment autobiographique au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire que c'est une expérience vécue dont elle se fait l'écho. Et ce qu'elle dit est très beau, c'est-à-dire qu'au fond, on peut être extrêmement riche, bien portant tout ce qu'on voudra, jamais on ne connaîtra, on aura même l'idée de ce type de solidarité-là. Et je crois que c'est un motif d'espoir, ça veut dire que c'est pas les gens les plus démunis qui sont les moins fraternels ou qui peuvent le moins éprouver la fraternité. Ça, c'est quand même un très très beau message.
Merci Laurent Touzeau. Et je rappelle votre ouvrage dans la collection Découverte Gallimard, La Résistance en Action. Un grand merci à la Sonothèque de RFI pour avoir archivé les entretiens accordés par Germaine Tillion à Cyril Ben Simon en 1998 et Dilette Sadaoui en 2003. Germaine Tillion, ethnologue et résistante, c'était une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompeani. Vos réactions sont les bienvenues à l'adresse suivante marche.monde@rfi.fr. Vous pouvez également vous exprimer sur la page Facebook de La Marche du Monde. Podcastez, cette émission, c'est la vôtre.